bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes, Julien Rosa et Ise Tsikar. À la réalisation Marie Placé, prise de son Élise Le.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Économiser et punir. Cette semaine, nous avons examiné les rouages économiques propres au monde carcéral, ceux de l'institution et ceux à l'œuvre dans l'enceinte même, à l'abri des regards. Un système condamné à une double peine, d'un côté l'augmentation du nombre de détenus et de l'autre des politiques budgétaires particulièrement restrictives. D'où la privatisation progressive de certaines missions, des privatisations largement critiquées, parfois même condamnées, tout comme les conditions de vie et de détention. Au cœur du débat éthique et économique, l'absence de droit du travail en milieu carcérale et la mise à disposition d'une main-d'œuvre pour les entreprises défiant toute concurrence. Ainsi, loin de rester à la porte des prisons, l'économique et le politique visiteur privilégié éclairent le rapport qu'entretient la société avec ses marges. Si depuis plus de deux siècles, la prison est devenue la forme de punition dominante, tout incite pourtant à réfléchir aux fonctions, avouées ou non, de l'enfermement. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons réfléchir aujourd'hui aux fonctions de l'enfermement en compagnie de Jean-Marie Delarue, conseiller d'État et ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté entre 2008 et 2014, en compagnie également de Corentin Durand, doctorant en sociologie à l'EHESS et auteur du chapitre « L'œil et le verbe, anatomie du pouvoir carcéral » aux éditions Mare et Martin. Et enfin, Grégory Salle, en duplex avec nous de Lille, chargé de recherche au CNRS et auteur de « L'utopie carcérale, petite histoire des prisons modèles » aux éditions Amsterdam. À Carte au 150, ce sera comme d'habitude les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Jean-Marie Delarue, Corentin Durand et Grégory Salle, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors d'abord, une voix qu'il fallait absolument entendre aujourd'hui et entendre cette semaine, c'est évidemment celle de Michel Foucault.
Cette mécanique constituée par la surveillance, le quadrillage social menu, l'emprisonnement, soit dans des maisons de détention, soit dans des camps de travail, etc. Cette formule a été finalement et est actuellement reprise dans tous les contextes politiques et sociaux. Ça a été une si formidable invention et si merveilleuse qu'elle s'est répandue presque comme la machine à vapeur. Et on pourrait parfaitement suivre l'histoire le développement historico-géographique de cette institution d'enfermement punitif qui est née en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui est devenue maintenant une forme d'encadrement général de la plupart des sociétés modernes, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient socialistes.
Alors Michel Foucault qu'on entendait dans Radioscopie sur France Inter. Alors la mécanique de surveillance qu'il faut décrypter, celle de l'enfermement, elle relève à la fois d'un système politique et aussi d'un système économique. C'est ce que nous dit Michel Foucault et c'est là peut-être une des particularités de son analyse, Corentin Durand.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à la généalogie classique juridique de la peine naissant à la Révolution française, parce que la Révolution française a fait de la liberté individuelle à la fois le bien suprême et ce qui rend les gens égaux, et donc que la peine de prison est ce qui va être la peine de référence parce qu'elle est aussi égalitaire. Michel Foucault pose une deuxième généalogie qui est de dire qu'en fait c'est moins la liberté que le capitalisme qu'il faut lier à l'émergence de la forme prison qui lie dès le début à la forme salaire, c'est-à-dire deux formes de prise sur le temps. Il s'agit de discipliner des individus dont on veut faire des travailleurs dans l'industrie, et on va les discipliner par une série de dispositifs qui sont le livret ouvrier, qui sont le livret d'épargne, qui vont moraliser et qui vont discipliner, qui vont limiter la dissipation du temps et de l'énergie des travailleurs.
Alors des détenus dont on a vu qu'ils étaient productifs, pas simplement Jean-Marie Delarue, pas simplement hors des prisons dans un but de réinsertion, mais aussi à l'intérieur des prisons.
Oui, le travail est associé en effet depuis longtemps à la prison. La première loi pénitentiaire en France, en février 1875, rend obligatoire le travail en prison.
Donc la question productive, elle est éminemment liée à l'avènement du capitalisme.
Oui, sans doute. En tout cas, il y a sûrement coïncidence entre les deux. Et donc le travail est demeuré longtemps l'objectif de la prison. Un travail conçu plus comme une peine quand même que comme une production. En tout cas, jamais le travail n'a occupé tous les détenus. C'est-à-dire que la prison a toujours été incapable de fournir du travail à tous les détenus, alors qu'elle revendiquait pour eux, ce travail comme au fond une forme participant à l'amendement du condamné. Le travail était associé à la fin du 19e à une autre obligation qui était le silence. Le silence pour être face à Dieu et expier ses fautes, et le travail pour être devant ses congénères, si je puis dire, et expier par la discipline dont il vient d'être question ses fautes aussi. Donc le travail a toujours été un objectif, mais jamais une réalité complète.
Ces questions économiques, Grégory Salle, elles montrent aussi que l'économie à travers le système du capitaliste est une forme de continuité entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, puisque c'est la circulation à la fois des marchandises, mais aussi des services. On voit de ce lien avec l'extérieur par le travail.
Oui, alors je n'aurais pas amené les choses comme ça. Mais alors, puisqu'on a commencé par Michel Foucault, je peux pas m'empêcher quand même de rebondir là-dessus, parce que le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe, on lui fait dire pas mal de bêtises. Moi, j'aurais tendance à dire que si jamais on devait faire le lien avec l'économie et le travail, il faudrait replacer ça de son point de vue dans toute l'économie, mais cette fois dans un autre sens, qui est l'économie et le rapport du tout au parti, de ce qu'il appelait les illégalismes et la gestion des illégalismes. Et donc, c'est de ce point de vue, je pense qu'il faudrait poser le problème.
C'est-à-dire ?
Eh ben, on lui fait dire, par exemple, que la prison serait inefficace. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. S'il s'était contenté de dire ça, il aurait simplement répété des sources déjà nombreuses qui disaient la même chose au XIXe siècle. Le coup de génie, le retournement de surveiller et punir, c'est précisément de dire que la prison est tout à fait efficace, en réalité. Mais pas du point de vue de sa fonction manifeste. Du point de vue d'une fonction latente, en quelque sorte, qui serait de créer une délinquance séparée, patentée, soigneusement distinguée des turpitudes des classes sociales supérieures, pour aller vite.
Alors, pour effectivement, quand on entendait vos propos, Corentin Durand, on se rend compte qu'effectivement, la question de la prison, il faut bien distinguer la question de l'enfermement de la question aussi de la punition qui a été évoquée par Jean-Marie Delarue. Il faut dire que de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait d'autres formes de condamnation et de punition qui pouvaient être le bannissement. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'histoire de l'enfermement en tant que tel, Jean-Marie Delarue?
L'enfermement a toujours existé naturellement, mais pas en effet sous la forme actuelle. Et Foucault rappelait bien au début de l'émission que la prison est l'invention d'il y a un peu plus de 2 siècles. Ce qui existait avant, et notamment dans l'ordonnance criminelle de 1670, qui est la grande ordonnance royale, qui définit notamment, c'est pas son seul objet, mais les peines, c'est la peine de mort, bien entendu. C'est ensuite la question, c'est-à-dire la torture, la petite et la grande, et puis surtout les galères perpétuelle ou à temps. Les galères sont le grand instrument de punition de l'Ancien Régime, et lorsque même les galères ne naviguent plus, puisqu'elles sont dépassées par d'autres techniques, on agglutine les condamnés dans les ports pour effectuer des travaux forcés, et c'est ça les galères. Bon. Et puis il y a aussi, comme vous l'avez évoqué, le bannissement, et puis il y a des peines plus légères, l'amende honorable, le blâme. La prison ne sert qu'à stocker, si je puis dire, des personnes dans l'attente de leur jugement.
Donc les avoir sous la main, essentiellement,
oui,
les extraire.
Exactement. On pourrait dire, pour simplifier, mais c'est simplificateur, que la prison, c'est un peu celle qui stocke les prévenus, c'est-à-dire en attente de leur procès. Mais elle stocke aussi les gens qui sont l'objet de lettres de cachet royales. Il y en a assez peu, il faut bien le dire. Ça stocke aussi les prisonniers de guerre. Quand John Howard se promène en France au XVIIIe siècle, visite la prison de Dunkerque, il remarque là des Anglais, ses compatriotes, qui sont là depuis un certain temps. Bon, donc la prison cible des personnes particulières, en même temps que, comme l'a dit Foucault dans pas tellement Surveiller et punir, mais dans d'autres ouvrages, elle est associée à ce qu'il appelle le monde correctionnaire, qui groupe aussi les pauvres et les fous. Bon. Donc la prison, c'est un instrument parmi d'autres qui ne punit pas, qui est un moment en attendant d'autres moments. Et c'est bien sous la Révolution, comme Corentin Durand l'a dit à l'instant, que les choses vont évidemment changer.
Alors Corentin Durand, quelle différence justement on peut faire entre les types de punitions qui avaient été plutôt à l'œuvre avant cette période du XVIIIe siècle, à savoir les châtiments corporels de manière générale ou le bannissement? Qu'est-ce qu'on peut noter comme différence aussi en termes de mission que s'attribue le pouvoir et l'État?
Oui, alors là aussi, pour reprendre la distinction qu'a fait Grégory Salles, je pense qu'il y a des missions qui sont des missions affichées et qu'il faut prendre au sérieux en tant que telles. Et puis, il y a des missions qu'on peut décrire, qu'on peut objectiver. Il ne s'agit pas d'en appeler tout de suite à l'hypocrisie des gouvernants, mais en tout cas de montrer qu'il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on présente la Révolution comme une grande rupture, parce que la justification de l'arbitraire royal à la pénalité légale évolue. Mais si on regarde qui sont enfermés, qui sont derrière des barreaux avant et après la Révolution, où est-ce qu'ils le sont, dans quel bâtiment, et bien, il y a une continuité qui est extrêmement forte, et ça amène un certain nombre d'auteurs à décrire ce tournant de la Révolution plus comme un tournant rhétorique de comment on justifie l'enfermement des pauvres, des aliénés, des fauteurs de troubles, que comme une transformation réelle de la philosophie du châtiment. Après, c'est pas pour dire que les justifications n'ont pas un intérêt, on va voir arriver très vite la notion d'amendement, la notion de relèvement moral, qui est très forte à la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe.
Et qui accompagne ce contrôle social.
Et qui accompagne ce contrôle social. Un contrôle social qui est vraiment moral et qui évolue au fur et à mesure des années après la Seconde Guerre mondiale, notamment en introduisant du reclassement social puis de la réinsertion sociale. Donc quelque chose, c'est cette tension qu'il y a dans les missions de la prison au niveau de l'individu, hein, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la réinsertion, mais en fait depuis la loi Taubira de 2014, l'amendement refait surface et on a de nouveau cette tension entre un amendement moral et une réinsertion sociale. Et donc cette justification qui est une justification en gros de produire pour l'individu une forme de bien, c'est-à-dire qu'on va le punir mais ça va le redresser moralement, ça va le réinsérer socialement, c'est quelque chose qui accompagne effectivement la prison révolutionnaire, la prison moderne qui ne se suffit plus de punir en fait.
Ce que l'on constate, Grégory Salles, pourtant dès que le choix de l'enfermement est fait, d'ailleurs il est fait dans beaucoup de sociétés, dans pratiquement toutes les sociétés, avec ce tournant du XVIIIe siècle, c'est que la première mission avant de réinsérer, elle est d'exclure, d'extraire ceux qui sont considérés comme dangereux.
Oui, tout à fait. Alors là, pour continuer sur ce qui a été dit, on peut essayer de faire une petite distinction qui a l'air toute bête, mais qui est en fait qui marque un très gros écart. C'est de dire que la fonction de la prison, parfois, quand on parle de surveiller et punir, on résume les choses en disant que la prison crée de la délinquance, hein, ce serait censé être le geste critique, c'est-à-dire l'idée qu'elle est une école du crime, qu'elle renforce la récidive au lieu de la limiter, etc. Mais en fait, la manière dont il faut prendre les choses n'est pas celle-là. C'est pas que la prison crée de la délinquance, c'est qu'elle crée la délinquance. C'est ça le point central. C'est-à-dire, elle crée symboliquement, et ensuite de fait matériellement, ce qu'on considère socialement comme étant la délinquance. C'est-à-dire qu'on opère un partage à l'intérieur d'un certain nombre de conduites qui peuvent être illégales ou d'ailleurs tout simplement des conduites à réprouver, des conduites moralement condamnables, ce qui est de la délinquance et ce qui ne l'est pas. Et donc vous voyez que c'est un geste qui va plus loin que le simple geste de l'exclusion. Alors effectivement, la prison c'est une peine spatiale, Olivier Milot a bien montré ça récemment, donc évidemment il y a un aspect de relégation spatiale tout à fait évident, une sorte d'exclusion de l'intérieur, hein, à l'intérieur en quelque sorte, mais en fait ça va plus loin que ça, c'est cette idée qu'elle crée la délinquance.
Alors, dans la question de l'enfermement, il y a la question aussi de pour quelles raisons on enferme. On a parlé de ce mélange de populations, Jean-Marie Delarue, auquel faisiez allusion, qui correspondrait à un mélange de toutes toutes les marges, tout ce qui est considéré à la marge de ces sociétés du tournant du 18e au 19e siècle, dont justement il y a aussi les raisons pour lesquelles on enferme. Alors il y a les raisons politiques, les contestataires, il y a des mesures de police, il y a ce qui est de l'ordre du pouvoir directement et de la justice.
Oui, moi je me sépare un tout petit peu de Monsieur Salles parce que je crois que c'est pas la prison qui crée la délinquance, c'est le code pénal. C'est le code pénal qui définit les infractions qui sont poursuivables. Et sans code pénal, la prison n'existe pas, puisque le premier geste d'un surveillant qui accueille un détenu à l'entrée de la prison, à son arrivée, c'est de vérifier qu'il a des titres pour l'écrouer, c'est-à-dire de vérifier qu'il a bien été condamné et qu'il peut l'accueillir, lui, le surveillant, dans la prison. Donc je crois que la prison, elle sert en effet à isoler, comme il l'a dit, à mettre dans un lieu particulier ceux qu'on a qualifiés de délinquants, ça c'est sûr. Deuxièmement, je crois que le XVIIIe siècle opère quand même le partage précisément entre la prison d'un côté et les autres populations jugées devoir être éloignées de nous, par ailleurs. La grande nouveauté de la prison, c'est précisément qu'elle n'enferme que les délinquants. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je rappelle quand même que c'est une loi de 1838 qui crée en France ce qu'on appelle à l'époque les établissements pour aliénés, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, et quant à la pauvreté, elle sera réglée un petit peu autrement. Alors, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, puisque les délinquants, ceux qu'on appelle les délinquants, sont en très grosse majorité des pauvres, c'est entendu. Et aujourd'hui, les études les plus sérieuses montrent qu'il y a un quart de personnes aujourd'hui emprisonnées qui sont atteintes de maladies graves. Donc on a du mal, naturellement, à séparer les choses. Mais je crois quand même que le XVIIIe siècle opère ces distinctions, même si elles ne sont pas toujours suivies des faits.
Alors ça, c'est la question des populations qui accèdent.
La nouveauté de la prison, ça.
Alors, la nouveauté de la prison, parce qu'il existe différents lieux théoriques, mais dans les faits, il y a aussi la manière dont on atterrit en prison. Donc, vous avez fait allusion à l'arbitraire royal, aux lettres de cachet. Il y a donc à la fois des raisons politiques, des raisons judiciaires, des raisons peut-être moins psychiatriques, mais disons-nous sociales. Finalement, ces distinctions-là, elles se font moindres, si on prend le problème sous cet angle-là, Jean-Marie Delarue.
Oui, moi je crois encore une fois que il n'y a pas de raison politique en dehors du code pénal. Alors on peut très bien critiquer le code pénal dans ses définitions, ça ne me fait aucune difficulté. Encore une fois, je ne sache pas qu'aujourd'hui, ou alors il nous faut confondre avec la dictature la plus échevelée, il y ait de condamnations politiques comme les lettres de cachet au XVIIIe siècle. Il y a eu suffisamment de procès faits à la lettre de cachet pendant la Révolution pour qu'on ne soit pas revenu dessus. Donc il y a bien un code pénal. Ce code pénal, en effet, classifie les gens et les infractions. Et dans ces infractions, évidemment, on va retrouver une majorité de pauvres et bien souvent des gens qui ne sont pas équilibrés mentalement. Mais encore une fois, ça c'est le résultat d'une pratique qui est le classement de ce qu'on appelle dans ce pays aujourd'hui les infractions. Hein. Et je récuse pour ma part toute idée de qu'on entrerait, on ferait entrer des condamnés politiques hors du système judiciaire. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas.
Corentin Durand, qu'est-ce qu'on peut dire de la mission et de la justification des sanctions quand on reprend l'histoire de l'institution prison, de la prison pour peine? Qu'est-ce qu'on peut dire de la justification des sanctions et de son origine idéologique?
Je pense qu'il faut effectivement revenir au code pénal, c'est-à-dire qu'il faut passer de ce qu'on dit aux enfants, la police viendra te chercher si tu fais une bêtise, si t'es pas sage, à effectivement la définition juridique de on va en prison quand on a commis une infraction. Mais à la fois, tout en disant qu'effectivement la base de la prison c'est le code pénal, il faut accepter, je pense, que le code pénal est un ouvrage politique dans le sens où c'est politique et moral, dans le sens où c'est une objectivation d'un certain nombre de normes et qu'on peut effectivement critiquer une à une pour les implications qu'elles ont. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va considérer comme constituant une infraction, quelle peine on va associer à cette infraction et on n'est encore qu'aux premières étapes d'une longue chaîne qui veut dire qu'une fois que quelque chose est marqué dans le code pénal, il va falloir voir comment la même infraction, suivant les circonstances dans lesquelles elles sont commises et suivant qui la commet, on peut penser par exemple à la différence entre la répression de la prostitution de rue et de la prostitution, on va dire, de luxe, si on permettez cette horrible expression, qui n'est pas du tout réprimée de la même manière. Il y a des travaux de la sociologue Gwenaëlle Mincent qui montrent comment la police construit des stratégies différentes, des peines différentes, et ensuite jusqu'à la décision du juge qui va incarcérer ou non, qui va incarcérer avec sursis ou non, et la décision du juge d'application des peines qui va accorder ou non des aménagements de peine.
Et alors pour ça, il faudrait peut-être remonter aux origines même culturelles du code pénal, origines culturo-dépendantes, religion, société occidentale, avec elle-même ses références et ses codes.
Alors, je suis peut-être pas le plus compétent pour remonter trop loin. Moi, je suis sociologue, donc j'ai plus de facilité à m'exprimer sur les effets du code pénal et à m'exprimer moins sur les intentionnalités qui ont gouverné à l'écriture du code pénal qu'à ce qu'il produit. Et ce qu'il produit aujourd'hui, c'est des sélections qu'on peut exprimer, non pas en disant qu'elles sont dans le code pénal, mais qu'on peut exprimer comme des sélections de classe, de genre et de race. La manière dont aujourd'hui la prison, la population carcérale est construite et le résultat, pourquoi il y a 3% de femmes en prison alors qu'elles représentent 50% de la population française, pourquoi est-ce qu'on a alors on n'a pas de statistiques raciales sur les prisons. Mais à l'œil nu, il y a 40% d'étrangers. Et à l'œil nu, on sait qu'il y a, plus de...
18% d'étrangers.
18%, pardon. Peut-être.
On n'a pas de statistiques en France, mais on en a par exemple aux États-Unis.
Mais si, il y en a en France, bien sûr que si.
Jean-Marie Delahaye.
Mais, ce que dit Corentin Durand est vrai, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus d'étrangers en prison que dans l'ensemble de la population. Donc son raisonnement est exact.
Voilà, et dernièrement aussi, on a des études, je pense notamment à celle récente de Virginie Gautron, qui montre comment à chaque étape de la procédure pénale, quelqu'un qui a un travail, qui a un logement, qui a des représentations familiales, ira plus vers des alternatives, ira plus vers des rappels à la loi, ira plus vers du sursis, et que l'incarcération, c'est avant tout la peine des pauvres, des hommes et des personnes issues de milieux populaires et de l'immigration.
Alors ça, c'est l'état des lieux. Grégory Sell, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue théorique de ce qui a constitué la justification des sanctions ? Est-ce que c'est effectivement la recherche de l'expiation, de la dissuasion ?
Alors, il y a plein de motifs hein, qui se sont succédés ou qui ont cohabité à la même période. Donc, vous les avez indiqués. Évidemment, le dernier en date, celui qui domine en quelque sorte notre époque, étant celui de la réinsertion ou de la resocialisation. Mais je pense qu'il faut enfoncer le clou de ce que vient de dire Corentin Durand, c'est-à-dire bien marteler le fait que la question carcérale, c'est la question des inégalités sociales devant le droit et devant la justice. Je dis devant le droit et devant la justice parce qu'il y a ces deux niveaux-là. Il y a d'abord devant les textes, c'est-à-dire qu'est-ce que les codes, les lois, les normes mettent inclus ou non, quelle est la hiérarchisation des sanctions, donc à la fois leur délimitation, leur hiérarchisation, le régime des sanctions qui est appliqué à un certain nombre de comportements, etc. Et puis il y a devant la justice, c'est-à-dire devant le circuit judiciaire. Et alors Corentin a suggéré en fait un moment qui est un moment clé, hein, et qui est un moment clé parce que c'est le moment où le système pénal dit lui-même qu'en fait il fonctionne à l'inégalité en quelque sorte. C'est le moment du partage entre contrôle judiciaire et détention provisoire. Ce qu'il a suggéré, c'est ce qu'on appelle les garanties de représentation. Hein, soit, au moment où vous êtes un prévenu, vous présentez des garanties donc socio-économiques de représentation, des attaches familiales, un emploi plus ou moins précaire ou plus ou moins stable, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier du contrôle judiciaire parce que on ne craint pas que vous vous enfuyiez ou qu'on vous perde dans la nature. Ou bien vous ne les avez pas pour exactement la même infraction. Hein, et là, par contre, vous irez en détention provisoire puisque on a besoin de vous avoir sous la main. Voilà. Et ça, il faut le marteler parce que on tombe parfois sur des descriptions ou des caractérisations du système carcéral qui ne parlent que de l'état matériel des prisons et qui font complètement l'impasse sur tous les déterminants structurels de cet état matériel.
Alors c'est cette idée de justice de classe qui a fait l'objet aussi d'un reportage dans Là-bas si j'y suis sur France Inter le 1er janvier 2009.
Alors une audience de comparution immédiate, je dirais, pour résumer, c'est la justice en temps réel, c'est-à-dire quelqu'un est arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un délit et il va donc passer en jugement de manière extrêmement rapide dans ces audiences qui sont souvent, je pense qu'on le verra tout à l'heure, extrêmement surchargées. Et vous verrez que malheureusement, il y a peu de temps pour les dossiers. Je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, mais enfin voilà. Donc c'est la justice rapide. Contre nous, on appelle souvent de la justice d'abattage. Les dossiers sont traités, et bien voilà, pas forcément en pouvant tenir compte de toutes les personnalités des uns et des autres et de tous les éléments qui leur sont fournis. Je dois avouer que souvent, à l'issue de ces audiences, on en sort avec un peu mal au cœur parce qu'on se rend compte quand même que ceux qui passent là, et bien, sont ceux qui sont certainement les plus vulnérables, je dirais même voire un peu les plus paumés.
Vous avez plaidé la Évry il n'y a pas longtemps?
Il n'y a pas très longtemps, une affaire de délinquance financière où mes clients avaient effectivement détourné des fonds. Et juste avant, il y a quelqu'un qui est passé en comparution immédiate pour un vol de téléphone portable. Bon, qui avait eu un petit casier, hein, qui était un type pas très clair, qui s'exprimait pas très bien, on savait pas de quelle nationalité il était, il n'arrivait pas à dire s'il était portugais ou capverdien, enfin bon. Et il s'est pris 2 mois ferme. Et nos clients, j'ai un peu honte de le dire, n'ont pris que des amendes. Donc, c'est aussi ça, une justice de classe.
Jean-Marie Delarue, qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de l'avocate ?
Oui, je pense que l'idée que la justice martyrise les pauvres et favorise les riches n'est pas une idée très nouvelle. Mais sans doute la constate-t-on dans la réalité de tous les jours. Les audiences de comparution immédiate sont à cet égard tout à fait révélatrices. Je dois dire quand même que la justice s'efforce de corriger certains défauts. Aujourd'hui, les procès d'assises qui étaient expédiés en moins de 24 heures il y a 40 ans durent au moins 3 jours et quelquefois une semaine.
Mais il y a pourtant 91% des condamnés aux assises qui sont issus des classes populaires. Ouais. Alors est-ce que ces chiffres, cette surreprésentation à la fois de personnes en situation socio-économique difficile, souvent peu diplômées, plus démunies scolairement, etc. Est-ce que justement c'est lié à des propensions différenciées? C'est l'objet de certains travaux au passage à l'acte. Est-ce que justement ce sont ces facteurs socio-économiques et culturels qui sont la preuve de pratiques policières ou judiciaires discriminatoires? Comment est-ce qu'on peut les interpréter? Il y a cette situation de fait et les interprétations qui les accompagnent.
Il ne faut pas chercher dans je ne sais quelle disposition culturelle la profession à la violence. Mais ce qui est vrai, c'est que la répartition, pour parler à la manière d'un statisticien bien connu qui s'occupe des prisons, qui s'appelle Pierre-Victor Tournier, je dirais volontiers que quand on est jeune, homme et pauvre, on commet plus de délits quand on est femme âgée et riche. Bon. Et pour des raisons qu'on voit confusément assez bien. Alors, ceci étant, je partage complètement ce qu'a dit Corentin Durand, c'est l'infraction, la définition de l'infraction est un ouvrage politique. On pourrait dire que l'action de la police, d'une certaine manière, l'est aussi, et enfin la justice derrière. Permettez-moi de dire quand même, je le dis avec amitié à Grégory Salles, qu'il ne s'agit pas d'ignorer les déterminants politiques de la prison quand on s'intéresse aux problèmes matériels. Je crois que, moi personnellement, je trouve que la situation matérielle des prisons gagnerait à être améliorée. Ce n'est pas l'effort qui consiste à l'améliorer qui empêche de voir les déterminants socioculturels. Je crois vraiment que autrement les détenus se sentiraient un tout petit peu oubliés.
Non, bon. La remarque de Grégory Salles, je crois, je vais vous laisser la parole, elle est plutôt dans le sens du fait qu'on étudie plutôt cet aspect-là que l'ensemble.
Oui, mais je crois qu'on peut aussi étudier les deux.
Grégory Salles.
Oui, je le nie pas. Hein. Je dis simplement qu'il y a une sorte de focalisation, pour des raisons évidemment bien compréhensibles, mais qui a tendance à oublier tout un aspect du problème. Et il y a une grande, je dirais même le discours dominant, affirme, en tout cas sous-entend, que une fois qu'on aura réglé l'essentiel des problèmes matériels, qu'on aura rapproché la vie du dedans de la vie du dehors, qu'on aura mis fin à la fois aux carences et aux abus les plus criants, la question carcérale sera réglée. Mais en fait, pas du tout. Hein. D'une certaine manière, elle ne fera que commencer, parce qu'il faudra s'attaquer à qu'est-ce qu'on punit dans notre société, avec quel barème. Et qui est puni et qui n'est pas puni.
L'une des particularités quand même de la prison, c'est justement d'être ce bout de la chaîne.
Oui, c'est le bout de la chaîne, mais je visais pas évidemment Jean-Marie Delarue, hein, qui a fait un travail tout à fait remarquable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se défaire en fait de cette idée, malgré tout, qu'il a pu indiquer que ça peut paraître évident que les pauvres commettent plus de délits. En fait, c'est fort douteux, hein, c'est-à-dire que l'un des apports des sciences sociales, disons, c'est de mettre un petit peu cette idée à distance et d'insister sur les effets de sélection créés par le système pénal. Je vais prendre un exemple tout simple, mais d'autres pourraient être pris, c'est celui de la consommation de drogue. Voilà une infraction dans l'état actuel de la législation en France qui est parfaitement transclassiste, hein, c'est-à-dire... entre guillemets, si je vais très vite, tout le monde se drogue. Hein. Il n'y a pas que les pauvres qui se droguent. Il y a aussi des gens qui occupent des positions tout à fait élevées dans la société. Et pourtant, c'est pas eux qui sont punis. Voyez. Donc, c'est toutes ces lignes de partage qu'il faut prendre en compte. Mais on pourrait dire la même chose des violences sexuelles. Hein. Les violences sexuelles ne sont pas que le fait des pauvres. Voyez. Et pourtant, ce sont avant tout, pour ne pas dire exclusivement les pauvres, qui se retrouvent en prison pour ces faits-là. Voilà. Donc, il faut attirer l'attention là-dessus. Non pas que le reste soit inintéressant, mais on parle beaucoup plus du reste et pas beaucoup de cet aspect-là.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl, and me, oh Lord, is one. Go tell my baby sister, never do what I have done, to shine the house in New Orleans. They call the rising sun.
Écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Ce que disent les détenus, c'est au fond le vrai problème pour nous, c'est la réinsertion. C'est-à-dire que quand on sort, moi je me souviens toujours de cette parole d'un détenu qui disait bah, quand on attend un quart d'heure devant une porte parce qu'on n'a pas eu, on ne sait plus ce que ça veut dire ouvrir une porte de son propre chef, c'est la situation effectivement qui était déjà une situation en 70, effectivement quand un détenu arrive, un ex-tolard arrive pour chercher de l'emploi dans le contexte actuel, c'est pas lui qu'on va prendre. Hein, mais ça, c'est une question assez large. Mais je voudrais quand même revenir sur la question du succès ou non de la prison. Si on se place du point de vue simplement, je crois, de la fonction première aujourd'hui de la prison, qui est, en gros, d'exclure un certain nombre de gens de la société civile et de les mettre à côté. Là, on peut dire que la prison, c'est un succès. Mais si, effectivement, on revient à ce qui a fondé la prison dans notre République. Hein. Ce qui la fonde, la prison pénale, c'est effectivement la question d'un amendement. C'est la question aussi de faire revenir en liberté des individus qui auront un autre rapport à la société civile. Oui, et là, il me semble qu'on peut dire, mais c'est pas une honte, mais il faut le dire, que c'est quand même un échec. Et que ça, la prison, elle fait peur à un certain nombre de gens qui n'y vont pas, dont nous sommes, et elle fait pas forcément, elle n'opère pas la fonction qui lui a été donnée. Encore une fois, dans les fondements de ce qu'est notre République française.
C'est Philippe Artière qu'on entendait dans On est tous dans le brouillard sur France Culture le 21 décembre 2004. Philippe Artière qui pose cette question finalement de la réinsertion. Alors pourquoi on vous avait dit tout à l'heure, Jean-Marie Delarue, que c'était le code pénal qui créait la délinquance. C'est aussi la loi et la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, par exemple, qui dit que le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales et il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes. Donc la loi doit aussi avoir pour mission de réinsérer.
Alors pour mission, elle l'a, c'est inscrit. Et effectivement, il y a cette mission de réinsertion, elle est affirmée, ce que je disais tout à l'heure, elle est affirmée depuis effectivement la naissance de la prison pénale, avec des variations qui sont importantes entre un amendement moral et une réinsertion sociale. Mais ce qui va avec, c'est aussi une critique aussi ancienne, contemporaine, de son échec. Et cette critique, j'ai vu un sondage ce matin réalisé par Harris Interactive pour le barreau de Paris, qui reprend des résultats bien indiqués que la grande majorité de la population française n'y croit pas. On ne croit pas que la prison prévient la récidive, on ne croit pas que la prison réinsère. C'est quelque chose que, à l'intérieur des prisons, moi j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des prisonniers, personne n'y croit non plus. C'est-à-dire que ce que disait Philippe Artière dans l'entretien, à savoir que la défiance de la réinsertion est certainement la chose la mieux partagée entre les détenus.
Mais alors pourquoi ? Parce que la prison se focalise trop sur la prise en charge première, à savoir d'abord l'enfermement, la prise en charge des détenus, faire en sorte qu'ils ne s'évadent pas, qu'ils ne se suicident pas, qu'il ne se passe pas un certain nombre de choses. Et pour cette mission-là est surévaluée par rapport au reste ?
C'est que le reste a pas d'existence aussi concrète. C'est-à-dire que si on parle vraiment de la vie en cellule, si on parle de quelqu'un qui est incarcéré dans une des 190 à peu près prisons françaises, qu'est-ce qui a trait le travail? Jean-Marie Delarue l'a dit, il a une fonction occupationnelle, il a une fonction un peu moralisatrice, mais ça on est plus dans des discours lointains de la prison.
Un peu économique.
Très économique bien sûr, mais est-ce qu'on est vraiment en train de préparer sa réinsertion quand on voit le type de travail et les conditions dans lesquelles on travaille en détention? C'est-à-dire que dans le vécu, et là c'est pas mon interprétation, hein, j'essaye de suivre un tout petit peu les raisonnements que j'ai pu, enfin les discours qui m'ont été donnés par des détenus, la réinsertion, elle n'est pas là, et elle n'est pas là hein, au point où elle est souvent citée par les détenus pour dire « j'ai besoin d'un travail pour ma réinsertion ». En essayant un tout petit peu de dire « mais vous employez ce mot tout le temps, vous justifiez la peine de prison ». Enfin, la prison, elle n'est pas imperméable au discours extérieur. Et là, j'ai le cas d'un prisonnier dans un établissement pour peine en France qui avait cherché dans le dictionnaire, parce qu'il n'était pas forcément été beaucoup à l'école, le terme réinsertion, qui avait envoyé la définition à tous les responsables pénitentiaires qu'il connaissait et qui l'avait placardé sur sa porte. Voilà, pour dire, en gros, vous en parlez tout le temps, elle est où? Voilà. Et donc vous devriez me donner un aménagement de peine, un travail, etc. Toutes choses qu'il demandait depuis des années et qu'il n'avait jamais eu, parce que comme l'a rappelé forte à propos Jean-Marie Delarue, effectivement, le travail, il n'est pas pour tout le monde, les aménagements de peine, ils ne sont pas pour tout le monde, on est dans une situation de pénurie de tout ce qui est censé servir à la réinsertion dans les prisons.
Alors Grégory Salle, est-ce que cette pénurie, justement, ce manque de réinsertion pour tout un tas de raisons économiques, mais aussi peut-être des raisons liées aux politiques carcérales qui sont menées, est-ce que c'est un manque de conviction ou est-ce que c'est une volonté cachée finalement d'augmenter la peine et la condamnation ?
Ouais, il n'y a pas besoin d'aller chercher de volonté cachée. Hein. C'est pour une raison fonctionnelle, c'est qu'en fait, ça ne sert pas vraiment à ça, tout simplement. Donc après, évidemment, il y a des adaptations aux mœurs d'une époque qui font que il y a une sorte de degré minimal à cet égard à essayer de respecter. Mais fondamentalement, ça n'est pas fait pour ça. Alors ça m'amène à deux choses en fait, parce que sur Entendez-vous l'écho, il y a un petit aspect économique peut-être qu'on peut ajouter et un aspect théorique. L'aspect économique, c'est que, et je fais le lien avec l'émission de lundi, hein, celle qui a démarré la série. Il a été question tout à l'heure en introduction de politique budgétaire restrictive. En fait, pas vraiment. En fait, si on regarde juste le budget de l'administration pénitentiaire, il a quelque chose qui est tout à fait hors norme. C'est qu'il augmente considérablement, en fait. Hein. Entre le début des années 2000 et le milieu des années 2010, il a presque doublé le budget de l'administration
pénitentiaire. Mais le nombre de détenus aussi.
Oui, oui. Non, mais alors évidemment, il y a tout un tas de bonnes raisons, et notamment le fait que l'administration pénitentiaire était notoirement sous-dotée, et quand il y avait des comparaisons internationales, elle était tout le temps en queue de peloton. Donc il y a un effet de rattrapage. Mais quand même, hein. Donc la question, c'est pas tellement une politique budgétaire qui serait elle-même restrictive, parce que je crois qu'il y a aucun secteur de l'État, à ma connaissance, qui connaît ce genre de développement. C'est plutôt une question de répartition. Hein. Où va ce budget, à qui, pour quel type de personnel, quelle répartition entre l'enfermement et les gens qui sont dits sous main de justice, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur la réinsertion, puisqu'on parlait de ça. Pour essayer d'avoir une analyse un peu distanciée de la question carcérale, il faut essayer de reposer toutes les questions, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que la justice pénale? Qu'est-ce que c'est que le crime, etc. Mais réinsertion n'y échappe pas. C'est-à-dire, c'est un terme qu'on utilise comme ça, comme s'il allait de soi, mais il faut essayer de se demander ce que ça veut dire réinsérer. Et là aussi, essayer de prendre le problème à l'envers. La question qu'on se pose traditionnellement, c'est alors, est-ce que ça marche, la réinsertion? Comment on réinsère les gens, etc. Mais il faudrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire réinsérer dans la société actuelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de réinsérer des gens dans une société dans laquelle le marché du travail, par exemple, est tellement verrouillé? Moi, j'ai des étudiants de master qui sont diplômés de bac plus 5. Je peux vous dire que leur entrée sur le marché du travail, elle est pas garantie du tout. Hein, et elle est marquée par l'horizon du salariat précaire.
Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la prison s'insère dans un système global de finalement d'augmentation des inégalités, comme n'importe quelle machine.
Oui, c'en est à la fois un reflet et un vecteur extrêmement important. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse. Il faudrait qu'on fasse la reproduction comme le Bourdieu et Passeron, la reproduction bis, mais pas sur le système d'enseignement, sur le système pénal en fait. Hein. Quelle est la contribution propre du système pénal à la reproduction sociale? Ça serait bien de faire ça. Bon, non, mais c'est juste qu'il faut pas utiliser ce terme comme on l'utilisait dans les années 50-60 en fait. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout le même sens. Alors, réinsérer,
et ça pose quand même de manière plus large la question de l'État, d'ailleurs, dont on a vu à travers des dimensions très économiques cette semaine que l'État avait délégué une partie des services, notamment au secteur privé. Alors qu'est-ce que ça dit finalement, cette question des inégalités que l'on retrouve en prison, qu'est-ce que ça dit du rôle de l'État, peut-être en amont des prisons aussi, Jean-Marie Delarue?
Je crois que personne ne conteste que la prison relève essentiellement des missions régaliennes de l'État, hein, comme la justice d'ailleurs. Par conséquent,
Si, plein de gens le contestent, puisqu'à l'étranger, il y a des privatisations de prison, il y a d'autres systèmes mis
donc,
en place.
Donc, ce n'est pas contesté en France. Et en effet, aux États-Unis, il y a des prisons entièrement privées. En Grande-Bretagne aussi, ils reviennent d'ailleurs en Grande-Bretagne sur ce point. Mais encore une fois, en France, personne ne le conteste, d'autant moins que la Constitution ne le permettrait pas. Alors, on a en effet privatisé certaines fonctions de la prison qui sont des fonctions de plus en plus étendues, puisqu'au départ, il s'agissait de blanchisserie, de ménage et de cuisine. Et désormais, il s'agit de travail, de formation professionnelle ou de recherche d'emploi.
Ou de construction de bâtiments.
Non, ça, depuis toujours, l'État a sous-traité les constructions de bâtiments. Donc ça n'a rien de nouveau. Hein. Ce qui est de nouveau, en effet, c'est la forme partenariat public-privé qui a enrichi un certain nombre de grandes entreprises de travaux publics. Ça, c'est clair. Mais la construction des entreprises privées, pardonnez-moi, n'a rien de nouveau. En revanche, le privé, dans le fonctionnement même de la prison, a pour moi deux effets. Le premier, c'est que ça dessaisit, c'est une des explications qu'on peut donner à l'échec de la réinsertion que tout le monde constate. Le privé dessaisit au fond les responsables pénitentiaires de toute mission dont ils se sentiraient investis pour le travail ou la formation professionnelle de leurs détenus. Le deuxième effet, c'est de considérer, de faire regarder par les détenus le fait que ce qui deviennent eux n'intéresse pas du tout les surveillants et le personnel pénitentiaire. Donc ça joue dans les deux sens et ça concourt en effet à cette idée que la réinsertion, au fond, personne ne la prend en charge sérieusement en détention. Et je crois que ça correspond à la réalité très profonde du fonctionnement du personnel pénitentiaire. L'enfermement a ceci pour vertu qu'il suffit d'en attendre la fin pour avoir accompli sa mission. Bon. Et donc je crois que pour beaucoup d'entre eux, je mets à part des gens tout à fait volontaires, intelligents, etc. Mais pour beaucoup d'entre eux, on accueille le détenu quand il arrive et on le relâche quand il s'en va. Et puis le reste n'a aucune importance. Quand on rendra les responsables de prison un peu soucieux de ce qui se passe après le séjour dans leur établissement, là les choses deviendront intéressantes. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Corentin Durand, ça pose aussi la question de l'individu. Comment est-ce qu'on caractérise ce qui concerne l'individu par rapport à ce que l'on pourrait imaginer d'une responsabilité de l'État lorsque l'on a une surreprésentation de certains groupes sociaux? On peut poser la question de manière collective. Hein, c'est une question déjà que posait Durkheim à sa manière. L'individu est replacé au cœur du coup de la question criminelle et on met de côté la responsabilité de l'État.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut insérer des personnels pénitentiaires dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui sont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, dont le rôle est vraiment... Alors, est-ce qu'on peut dire « et encore » ou « était » en tout cas la réinsertion sociale? Je dis c'est toujours leur cœur de métier, comme on dit, mais leurs missions ont changé. Et cette distinction que je m'acharne à faire entre amendement moral et réinsertion sociale, en fait, elle se voit dans la transformation de leur mission. Et elle est vraiment cette articulation-là. L'amendement moral, c'est l'individu. La réinsertion sociale, c'est une réinsertion d'une société qui doit prendre en compte l'état du marché du travail, qui doit prendre en compte les inégalités structurelles, etc. C'est-à-dire que quand on a un travail social face à un prisonnier qui l'accompagne pour chercher du travail, on est dans une responsabilité sociale partagée de réinsérer quelqu'un qu'on a puni. Mais depuis maintenant plusieurs décennies, ces travailleurs pénitentiaires, ces conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ont vu leur mission transformée vers une mission de contrôle et de repérage, d'évaluation de la récidive. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller chercher un travail avec la personne, on va lui dire « Revenez dans un mois avec un travail. » Ou en tout cas en montrant que vous avez cherché un travail.
Mais on va vérifier que vous avez fait les démarches, etc. Donc on est dans une mission de surveillance.
De surveillance
de contrôle,
de motivation. Et là, on touche vraiment à l'individu, c'est-à-dire, et à l'amendement moral. C'est-à-dire qu'il s'agit de motiver la personne. Alors je suis pas forcément... j'ai pas d'avis tranché sur l'intérêt de cette méthode en général. Mais elle est en tout cas indicatrice de, effectivement, quelque chose qui va moraliser l'individu et qui va lui dire, mais en fait... L'entretien motivationnel, qui est une des techniques qui aujourd'hui est apprise aux jeunes et moins jeunes conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est précisément de leur dire, mais comment est-ce qu'on va aider quelqu'un à vraiment aller chercher un travail? Pour avoir fait du terrain pendant longtemps dans les centres d'hébergement qui accueillent des sortants de prison, moi j'en ai vu chercher. C'est pas qu'ils cherchent pas, ils ont distribué des tonnes de CV, ils ont pointé partout où il fallait, etc. C'est qu'effectivement, comme ça a été dit, déjà, quand on a 2 ans de trou dans son CV, est-ce qu'on met fleurimérogis, est-ce qu'on ment, est-ce qu'on dit qu'on était en vacances, c'est compliqué. Et puis en plus, la prison n'a fait que renforcer une exclusion qui était déjà de fait du marché du travail, en tout cas du marché du travail primaire.
Grégory Sall, est-ce qu'on ne retrouve pas finalement ce que l'on retrouve dans le reste de la société capitaliste et du système économique, à savoir l'explosion d'un certain nombre de ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire des métiers de surveillance, de contrôle, que l'on retrouverait au sein de la prison comme ailleurs?
Ben oui, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans un livre qui avait fait grand bruit, mais donc on a un peu peut-être oublié malgré sa réédition, Les prisons de la misère, Loïc Vacan, alors on peut discuter de certains aspects du contenu du livre, mais il me semble qu'il posait bien le problème, c'est-à-dire qu'il replaçait la question carcérale dans l'horizon du salariat précaire, quasi forcé, j'allais dire, enfin en tout cas comme quasiment comme destin collectif. Alors là, évidemment, on pourrait découper, hein, c'est-à-dire il y a à la fois la question du travail en prison. D'ailleurs, il y a une pétition là qui circule actuellement, donc des conditions du travail en prison, évidemment, avec y compris des marques tout à fait établies qui font ce que certains ont appelé une délocalisation sur place, hein, à bas coût. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect de oui du rapport de la prison à la société en général et au rôle socialisateur du travail là-dedans. Il y a un point sur lequel, là, pour revenir un petit peu sur la question de la privatisation, mais il faudrait en fait plutôt utiliser d'autres termes. Il faudrait parler d'externalisation, de marchandisation,
oui,
etc. La délégation, c'est le terme juridique, alors il est un peu euphémique. Là aussi, il y a plusieurs manières de prendre le problème. Un premier problème, ça serait une première manière de le poser, ça serait de se demander qu'est-ce que ça a comme effet intramuros, hein, le fait de créer un marché de l'intendance ou de la gestion de la prison, hein, puisque donc les aspects régaliens, surveillance, greffe, etc., sont toujours sous la tutelle de la puissance publique. Et puis il y aurait une autre manière, c'est de se demander en quoi ça contribue à formuler la question carcérale dans l'espace public, hein, comment elle est présenter comme on pose le problème des prisons. Et il me semble que l'idéologie gestionnaire qui a aussi envahi cette sphère-là, elle contribue à maintenir la problématisation sur la question de la surpopulation, hein, et de savoir comment on pourrait la résoudre, donc dans un ratio entre le nombre de détenus et le nombre de places. Mais elle empêche ou elle limite, elle freine la possibilité de déplacer le problème. Là aussi, on revient à des classiques des années 70, de la question de la surpopulation vers celle du suremprisonnement.
Alors,
hein, et là, la question, c'est plus seulement la question nombre d'enfermés et nombre de places, mais c'est, là encore, hein, qui enferme-t-on et pourquoi ? Et est-ce que le problème n'est pas plutôt celui du suremprisonnement dans notre société ?
Alors là, une question qui était posée aussi par d'un côté ceux qui souhaitent la réformer la prison, de l'autre les abolitionnistes. Je vous propose d'écouter ces paroles d'Angela Davis.
Our long-range strategy has to be to abolish imprisonment as the dominant mode.
Notre stratégie de long terme doit être d'abolir l'emprisonnement comme modèle dominant de punition. Une perspective abolitionniste ne se concentre pas seulement sur le fait de se débarrasser de ces institutions qui confisquent la vie de tant de personnes de couleur ou de populations autochtones aux États-Unis.
It's an institution that pretends to solve problems that it cannot solve.
Mais c'est une institution qui prétend résoudre des problèmes qu'elle tend au contraire à amplifier, à reproduire.
And so an abolitionist perspective urges us to think about a whole
range of other ways. La perspective abolitionniste nous exhorte en réalité à réfléchir à de nouvelles méthodes plus créatives pour répondre aux problèmes que la prison prétend résoudre.
Jean-Marie Delarue, là, on pose la question à la fois de la réforme et de l'abolition de la prison dans les mesures qui sont mises en avant, bracelets et autres solutions de semi-liberté. On semble patiner un peu sur ces solutions-là.
Non, je crois qu'il y a des évolutions très profondes en cours. Moi, je pense que dans la ligne un petit peu de ce qui a été dit précédemment, la principale évolution tourne autour de la dangerosité, c'est-à-dire ce vieux concept employé à la fin du 19e qui revient en force et qui fait de la prison non plus une punition mais une étape. Et par conséquent, on envisage d'aller au-delà de la prison pour les personnes jugées dangereuses par des mesures de sûreté, dont le bracelet électronique en est un exemple, le bracelet électronique mobile un autre, la rétention de sûreté un troisième, la surveillance de sûreté judiciaire un quatrième, etc., etc. Donc, on ne se satisfait plus aujourd'hui dans une frange de l'opinion politique, je dis bien l'opinion politique, de la prison. Et on cherche autre chose.
C'est l'heure des nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna Andrade.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
Vous évoquez aujourd'hui la sortie programmée de la Grèce du troisième plan de sauvetage financier.
Mais oui, sortons tambours et trompettes, réjouissons-nous et portons la bonne nouvelle, la Grèce est sauvée. Elle peut désormais renouer avec la croissance et sortir de la crise qui la plombe depuis près de 10 ans. C'est en tout cas ce que l'on pourrait croire à la lecture des journaux qui claironnent la fin de la tragédie grecque. La raison de cet exercice de satisfaction collective, la réunion aujourd'hui du Conseil des ministres européens des finances à Luxembourg qui doit valider la fin du troisième plan dit de sauvetage et s'accorder sur des mesures d'allègement de la dette. En vérité, d'allègement, il n'est point question. Tout au plus, les augustes négociateurs européens accepteront-ils de se pencher sur un allongement de la durée du remboursement ? En clair, pas question de réduire le poids de la dette grecque. Tout ce beau monde ferme les yeux et feint de croire qu'en repoussant l'échéance, la Grèce pourra rembourser un jour ses créanciers.
Le FMI estime pourtant que la dette grecque ne sera soutenable que si elle est considérablement allégée.
Oui, mais aucun des négociateurs n'envisage réellement que la Grèce rembourse un jour une dette qui atteint désormais 180% de son PIB. Les prétendus plans de sauvetage reviennent en réalité à renforcer l'endettement d'un pays déjà exsangue en lui retirant toute marge de manœuvre pour relancer l'économie. Mais hors de question pour les négociateurs de relâcher leur pression sur le peuple grec. Il faut dire que dans les pourparlers entre la Grèce et ses créanciers, le remboursement de la dette revient inlassablement comme l'impératif auquel doit se conformer la Grèce si elle ne veut pas se faire lâcher financièrement par ses voisins européens. Cette exigence sert en réalité d'argument de négociation de poids à la Troïka pour imposer à la Grèce la mise en œuvre d'un agenda de réforme libérale, et malheur à elle si elle s'écarte un tant soit peu de cet étroit sentier. Ainsi, le patronat grec, relayé par des hauts fonctionnaires européens, s'inquiétait de la volonté du gouvernement grec de relever le salaire minimum. Il ne faudrait pas que la lutte contre la pauvreté fasse de l'ombre à la poursuite de l'austérité.
Depuis 2015, le gouvernement a ainsi fait passer près de 450 réformes.
Oui, des réformes visant à assainir et moderniser l'économie grecque, dixit le commissaire français aux affaires économiques Pierre Moscovici. Cocktail en réalité bien connu de réformes du marché du travail, de rationalisation du système des retraites et de privatisation à tout crin. En conséquence, sur le terrain, les retraités ont vu leur pension rabotée de plus de 40%. Un tiers de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et le taux de suicide s'est envolé de plus de 35%. On se demande bien comment la Grèce pourrait retrouver le chemin de la croissance et rembourser ses créanciers dans ces conditions.
Une logique d'ailleurs dénoncée par l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis.
Absolument. Dans un ouvrage sorti l'année dernière où il revient sur son expérience de négociation avec la Troïka, Yanis Varoufakis parle même de prison de la dette dans laquelle son pays est enfermé. Il raconte ainsi qu'aucune marge de négociation n'était même envisagée lorsqu'il arrive à la table des négociations européennes. Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, lui rétorque qu'ils ne vont certainement pas bouleverser leur politique économique à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement en Europe. Que Tsipras et Varoufakis aient été élus sur un programme lui est bien égal. La Troïka oppose une fin de non-recevoir à toute proposition alternative à la cure d'austérité. Pourtant, déjà, la directrice du FMI, Christine Lagarde, le ministre français des Finances, Michel Sapin, et même Wolfgang Schäuble lui-même s'accordent en privé sur la nocivité de la mère potion imposée à la Grèce. Tous savent qu'en alourdissant encore le poids de la charge, le pays ne peut que s'effondrer sur lui-même.
Mais alors pourquoi poursuivent-ils une telle politique ?
Eh bien, la raison est double. D'abord parce qu'une fois le plan mis en œuvre, impossible de revenir en arrière. Le capital politique investi est, de l'aveu même de Christine Lagarde, bien trop important. Ensuite, parce que la politique imposée à la Grèce repose sur une idéologie dont on perçoit d'ailleurs clairement les traces et l'inspiration dans les réformes adoptées en France ou en Italie. Wolfgang Schäuble admet ainsi à Varoufakis que le plan est mauvais pour les Grecs et qu'à sa place, il ne le signerait pas. Son but premier est d'assurer la pérennité de la zone euro en travaillant à une harmonisation des modèles économiques. Il travaille pour le long terme, pour l'avenir de l'Union, et ce, quel qu'en soit le prix pour les populations touchées. Cet aveu du ministre allemand nous permet en réalité de comprendre la logique de cette prison à perpétuité où la Grèce semble être assignée, une réclusion financière qui ne pourra être levée sans s'intéresser vraiment aux causes de cette peine et réfléchir à une annulation totale ou partielle de la dette.
Thank you.
Prison Guard, 100 Waters. Merci Jean-Marie Delarue, Grégory Salles et Corentin Durand d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom des ouvrages cités, Corentin Durand, L'œil et le verbe, Anatomie du pouvoir carcéral, c'est un chapitre, aux éditions Mar et Martin, et Grégory Salles, L'utopie carcérale, petite histoire des prisons modèles, et c'est aux éditions Amsterdam. Vous pouvez réécouter nos émissions à perpétuité, vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Demain à la même heure, ce sera Métronomique présenté par Amaury Chardon, la Suède des remous dans le modèle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une thématique intitulée Sexus Economicus, tout un programme.